C'était à l'instant l'excellent contrebassiste Renaud Garcia-Fons qui nous interprétait Bajo Andaluz. Et oui, c'est pour amorcer la 278e émission des Petits Tas dans le Mou. Les Petits Tas dans le Mou aujourd'hui, comme tous les calendriers occidentaux, bah, vont fêter pendant une heure avec vous, chères auditrices et chers auditeurs, sur ces ondes... belle de Radio Canu, fêtez donc la Sainte Flora. Flora, bonne fête Flora. Flora, c'est la patronne des Arabo-Andalouses. Mais allons, quelle est son histoire? Vite fait, l'histoire de Flora. C'est que Flora vivait au 9e siècle à Cordoue. Et son papa, il était musulman. Et sa maman, elle était chrétienne. Le malheur de Flora, c'est qu'elle eut un frère qui adopta la religion musulmane et qu'elle-même adopta la religion chrétienne. Chose bien courante encore sous notre pique. Mais le frère lui a dit « Allez, arrête, change de religion, prends la mienne, enfin, prends celle de papa. » Et non, elle a décidé de garder la sienne. Alors le frère, il l'a livrée au cadi et elle se laissait faire. Et il l'a donnée, là, au cadi de Cordoue. Et le cadi était quand même bien gentil puisqu'il lui a dit « Je te demande juste de renier ta religion. » Elle a dit « Non. » Et voilà. Et elle fut décapitée le 24 novembre 851. Donc aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'on va fêter? Parce qu'on n'a pas envie sur les ondes de Radio Canu de fêter quelque religion que ce soit. Bien sûr, ça n'est pas dans nos... Mais on va fêter le petit objet qui fait vaciller un continent car il refuse de s'y soumettre. Non pas au continent, mais à ce qu'on impose sur ce continent. Rubrique Alpha, le malheur des uns. Je vais vous demander de vous représenter une chose. Je sais, c'est dur à 13h04, mais de se représenter une chose, chers auditeurs. Un poignard. Oui, un poignard, la poignée du poignard en haut, mais la poignée du poignard est dans une poche, du côté droit d'un veston, à l'intérieur du veston, dans la poche intérieure de ce veston. Jusque-là, c'est pas trop difficile. Bref, le poignard se trouve manche en haut sur la poitrine. Vous le saisissez promptement de la main gauche. Et d'un seul mouvement, sans hésitation aucune, vous bousculez les deux jeunes gens devant vous, vous reprenez le manche de la main droite, de la gauche, vous laissez tomber le fourreau du poignard, il tombe par terre et tout le monde s'en moque. Vous allez très vite et tout droit en direction du président de la République, un peu en oblique de préférence et en sens contraire de la voiture qui le véhicule. Vous appuyez la main gauche sur le rebord de la voiture et d'un seul coup, portez légèrement de haut en bas, la paume de la main en arrière, les doigts en dessous. Enfin bref, vous plongez le poignard jusqu'à la garde dans la poitrine du président de la République. Vous y laissez le poignard, pas de romantisme superflu, il reste un bout de papier journal. Sur le manche du poignard. Vous oubliez l'objet une fois le forfait accompli. Sur le manche du poignard, donc, il reste ce bout de papier journal, puis vous êtes libre de crier « Vive la Révolution !» Pendant ce temps, vous vous rejetez en arrière. Personne ne vous arrête, personne n'a rien compris. Vous courez alors au-devant de la voiture à cheval, vous caressez les chevaux à l'encolure, ils aiment mieux ça, et l'escorte, qui n'a rien compris, est maintenant derrière vous. Vous vous dirigez vers la gauche, obliquement, pour essayer de pénétrer dans la foule et de disparaître. Des femmes et des hommes vous font obstacle. Ils crient « Arrêtez-le ! Arrêtez-le !» Un garde vous met la main au collet par derrière, puis 20 autres sont sur vous. Un Non, non, mais je ne dis pas ça pour frimer auprès de vous, ni pour me présenter en modèle. J'ai juste une bonne mémoire des faits, et je me crois digne de figurer parmi les humains. Je ne voudrais pas qu'on me traite de malade. Je m'appelle Caserio, et dans ma famille, je n'ai pas connu un seul fou. D'autre part, ne cherchez pas de complices. Je n'ai jamais travaillé avec des complices, ailleurs que dans la boulangerie de Sète, où j'étais apprenti boulanger. Ne m'énervez pas avec cette obsession que vous avez. Il sourit, ce jeune homme, et cela dérange. Il sourit toujours. C'est un sourire vague qui revient sur ses lèvres à tous les instants. Il répond doucement à toutes les questions. Et voilà, on ne voudrait pas qu'un fauve manifeste de la douceur. On a étudié le cas de son père. Son père devint épileptique le jour où il vit son propre frère se faire blesser par les Autrichiens qui en voulaient à l'Italie, qui voulaient l'Italie pour eux tout seuls. Mais est-ce que ça justifie ce sourire permanent chez le fils ? Il a 21 ans. Oui, il a pensé au suicide. Il a pensé que c'était mieux de se sacrifier que de se suicider. Tout jeune, quand il était à Milan, il a distribué des tracts anarchistes et il fut condamné pour incitation de militaires à la désobéissance. Il a fui en Suisse à cette époque et puis il a suivi une formation de plâtrier, ce qui l'a mené à Lyon, un mois. Il est descendu à Vienne, puis jusqu'à Sète. Et là, il a décidé d'être boulanger pour de bon. Il nous dit et nous répète, je n'ai aucun chef, je n'ai obéi à personne. La veille de son meurtre, alors qu'il était encore à Sète, il s'est volontairement fait mettre à la porte par son patron, le boulanger Viala, qui avait de l'estime pour cet apprenti travailleur et sérieux. On lui a réglé son compte et il a acheté un couteau. Caserio a choisi un beau poignard espagnol qui venait de Thiers, en France. Cet achat lui a coûté 5 francs. Maintenant, moi qui suis à Nantes, j'ai réfléchi. D'après la préfecture, il y a 8 anarchistes avérés dans notre ville qui comptent 140 000 habitants. Ça nous fait 0,0057% d'anarchistes. Mais il y a beaucoup de travailleurs par chez nous, et encore plus d'enclumes, eux. Oui, on est nombreux à enfoncer des enclumes, enfin, à enfoncer des marteaux dans des enclumes. On est de moins en moins à manier la faucille. Pourtant, Nantes est une enclave parmi le monde paysan, à l'heure où je vous parle, 13h10. Nantes a la mémoire blanche, la mémoire verte, nègre, enfin, peu importe les couleurs. Le planisphère, on le conçoit rouge. Dessus, il y a des continents bleus, blancs, verts et nègres. Les tuiles de la Loire inférieure, vers le sud du département, elles sont roses à cause de la pluie. Et le sang se dilue dans l'égout. Mais il y a par chez nous un autre canal qui affleure, celui qui coupe rose les buveurs de gamay, buveurs de sang rouge, leur propre sang. Non, celui du Christ, ma foi, il s'est évaporé près des forges où bouillonne un sang noir, cendre, deuil de ce sang des autres, déjà sédimenté. Écoutez maintenant l'armurier de Sète, son nom, Vaux-Guillaume, qui, contre toute attente, dans sa rue Gambetta, fit fortune grâce à un pauvre apprenti boulanger, anarchiste par surcroît.
Minutieuse enquête par les avenues de Sète, nous avons enfin déniché la fameuse armurerie de la rue Gambetta, où le famélique Caserio fit l'acquisition de son précieux couteau. Le marchand, M. Guillaume Vaux, merluchier aux formes rondes sous son tablier de gros drap, nous accueille le sourire aux lèvres, faisant saillir comiquement ses bacchantes à la Charlemagne.
Vous voulez parler de cette histoire de macaroni? J'en ai fait tant et tant de fois le récit. Enfin, je veux bien recommencer pour vos auditeurs.
Je vous en prie.
En 1893, j'ai fait venir d'Espagne via une fabrique de tiers 12 poignards avec l'espoir de les écouler dans la colonie italienne. Drôle, n'est-ce pas? Très important à 7 et très porté, comme vous le savez, sur le couteau. Quant à sortir le porte-lasagne...
Oui, oui, c'est de notoriété publique.
En 11 mois, malheureusement, j'en avais vendu seulement 7 de ces couteaux. Mauvaise affaire.
Pas de veine, en effet.
Si je peux m'exprimer ainsi, avec tout le respect que je dois au président, à sa veuve et à la patrie, le mauvais usage qu'a fait l'italien de ce couteau, couteau que je lui ai vendu 5 francs à l'époque, m'a tiré de ce que j'appelle chaque année la crise de fin d'été. En fin d'été, pardi, plus personne n'achète de quoi trancher de lard, ça se connaît.
Oui, c'est ce qu'on appelle la période creuse.
Je vous cache pas que sans le dire à mes fournisseurs, j'ai multiplié le prix de la relique.
C'est de bonne guerre.
Total, j'en ai liquidé plus de 1000 en 2 mois.
Le 2 septembre.
Il n'était plus pareil à l'honnête instrument qui découpait la veille mon beurre et mon pain blanc. Il était trop tranchant. Il était trop agile, entre mes doigts méchants, dans ma paume indocile. Des lames inoxydables, il faut bien se méfier. Je l'ai jeté au diable, qui croyait me défier. J'ai toujours redouté le long miroir des lames, leur éclat biseauté, annonciateur de drame. Quand on se sait coupable, le hasard objectif fait un crisse implacable d'un innocent canif. J'ai toujours redouté le long miroir des lames, leur éclat biseauté, annonciateur de drame. Quand on se sait coupable, le hasard objectif fait un crisse implacable d'un innocent canif. J'ai le cœur rempli de larmes, j'ai le cœur rempli de lames. L'âme, larme, l'âme. Les ciseaux à broder dans la boîte à couture parlent d'accommoder fils de soie et torture. Tapis dans la cuisine, les luisants coûtent là et les tranchées voisines susurrant « On est là !» L'épée damasquinée, la dague florentine, à la panoplie nouée, joue à la guillotine, en traversant la jungle de ma salle de bain. Même là, l'ima ongle m'a traité d'assassin. Vivre à couteau tiré, ce n'est pas une vie. On est exaspéré et l'on a des envies de caresse, même si l'on aperçoit l'épée de Damoclès. Prête à fondre sur soi. L'âme, 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 quelle idée d'espérer l'appel long des rues. Là on est lacéré et ici l'on vous tue. Dans la main du coiffeur, le rasoir aux aguets. Quant au poing du rôdeur, le stache à grand d'arrêt. Au poignard du héros, hachoir du charcutier. Couperet du bourreau, diamant du miroitier. Bistouri dans la panse, baïonnette au canon. Voyez les surins dansent et quel que soit leur nom. Et la faux dans les herbes et la flamberge au vent. Le mépris dans le verbe, le glaive dans le sang. Le rabot dans le bois, le soc dans la jachère. Les ciseaux dans la soie, le scalpel dans la chair. Le cœur rempli de larmes, le cœur rempli de l'âme, 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 l'âme.
Juliette, l'âme. Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus belle des radios. Et comme chaque semaine hebdomadaire, chères auditrices et chers auditeurs, vous pouvez, à 13h16, décoller votre pavillon auditif de votre poste à Galène et vous orienter, si vous en avez une, vers la fenêtre de chez vous, donnant sur ce ciel, ma foi, très lyonnais, très laiteux de Lyon. Il y a peu de chances de voir s'approcher la navette spéciale de Miss Cosmos, mais si vous prêtez l'oreille et s'il n'y a pas d'alarme policière, peut-être entendrez-vous approcher cette navette spéciale.
Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Cadette. Eh bien, je suis venu aujourd'hui, à peu près chaque semaine hebdomadaire, mais aujourd'hui, c'est pour vous donner une leçon d'écologie tirée de l'observation de l'avocatier. Oui, l'avocatier qui donne des avocats, oui, des avocats par chez vous. Chères auditrices, chers auditeurs, vos papilles gustatives sont insensibles aux effets de mode. Non, ne sont pas insensibles aux effets de mode, vos papilles gustatives, à ce que j'ai constaté depuis la dernière semaine hebdomadaire de ma constellation des pénates au moyen du télescope. Aussi, vos entrées, vos résistants et vos desserts ne sont pas si indépendants que cela. Bon, venons-en tout de suite au chouchou de vos véganes, l'avocat, qui fait office de beurre, d'œuf et de fromage. Vous pensiez que l'avocat œuvrait pour un monde meilleur. Et c'est-à-dire pour une conscience tranquille. Presque l'avocat allait ressusciter le météorite. Chantre de l'harmonie entre l'homme et l'environnement, l'avocat a envahi toutes vos assiettes, sans parler de vos réseaux sociaux, avides de commerce équitable. Bien à l'aise sur son canapé, l'avocat plaide la cause des animaux. Toutes ces tonnes de fruits viennent des fragments brésiliens, chiliens ou espagnols en hiver, et en été, des fragments Afrique du Sud et Pérou. Ils se vendent aussi bien que vos pommes de terre, sur le marché commun. D'où vient ce miracle, Miss Cosmos? Vous classez l'avocat parmi les super-aliments. Tendre pour le cœur et fluide pour la circulation, implacable contre le cancer et chasseur de rides. Il se trouve même en capsule par chez vous, oui, bah dans les, vous appelez ça les parapharmacies, oui. Oui, il y a de l'avocat en capsule, hein, vérifiez. D'où vient donc cet engouement et cet amour pour l'avocat, Miss Cosmos?
Parce qu'il y a beaucoup de
Non, ça n'a rien à voir avec les procès. Une envie d'authenticité, de naturel et de teint frais. Et je n'en disconviens pas. La valeur avec un grand V, n'est-ce pas, chers auditeurs et chères auditrices de radio Canette.
Eh bien, allez donc faire un tour aux environs du fragment Afrique du Sud, par exemple, dans le nord, dans la province de Limpopo, chez les Zoulous. Des avocatiers à perte de vue, tous d'une taille identique à ce que j'ai vu de ma constellation des pénates, au moins de mon moyen de mon télescope depuis la dernière semaine hebdomadaire. Ils s'élèvent de la poussière au cœur d'un empire qui fut naguère celui de la pomme de terre, justement, puis celui de la tomate. Alors pourquoi l'avocat, à l'heure qu'il est, 13h21, Miss Cosmos? L'avocat est un fruit compliqué. Ce n'est pas donné à tout le monde de le cultiver, l'avocat, sur le météorite. Il faut d'abord une pépinière sans lumière. Peu à peu, on les expose au jour, puis on les ligature pour mettre des hormones dans une incision avant de les replacer en serre. On greffe ensuite la jeune pousse sur un arbre commun, du genre un pommier. On tamise la terre, on lui ôte le moindre caillou, parce que l'avocat n'aime pas du tout les cailloux. On peint le tronc pour le protéger du soleil. Écran total. La tablette numérique gère le système d'irrigation. Tout est très technique par là-bas. Les agronomes sont des pointures Afrikaners, car ils sont labellisés « développement durable ». Les noirs ne sont que basse main d'œuvre. Car la pierre de touche de l'avocat, c'est l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau, et encore de l'eau. Bon, un kilo de tomates demande 180 litres d'eau. Un kilo de salade demande 130 litres d'eau. Un kilo d'avocat demande 1000 litres d'eau. Ça veut dire deux avocats et demi demandent 1000 litres d'eau. Mais où trouve-t-on de l'eau? Dans le nord de l'Afrique du Sud, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette. Oui, fragments de canicule et de sécheresse. Les bovins y meurent de soif, le maïs ne pousse plus, l'eau courante disparaît. Pourtant, de leur conduite, abreuvent les avocats. Les avocats des scrupuleux véganes. Vous appelez ça une alimentation raisonnée, vous? Tous ces camions qui se déversent jusqu'à l'échantillon d'Urban, 1000 km en camion, puis hop, le bateau direction Rotterdam, 26 jours de bateau, dans une climatisation à 6 degrés et un emballage conséquent pour éviter les chocs. Et c'est la même chose pour les dattes. Je vous parlerai une autre semaine hebdomadaire de la cataracte du palmier écologique. Bon, bah, en attendant, hein, bon courage hein, pour manger sain et durable hein, sur le météorite. Oh, l'exotisme, oh, ça fait des ravages par chez vous. Hein, ouf, et l'exotisme l'emporte toujours. Mais tiens, à propos de l'emporter, moi je vais retourner sur ma constellation des Pénates, si ma navette spéciale veut bien redémarrer et qui vit à l'air ambiant, hein, l'air ambiant de chez vous, ben, ça vient quand même de plus difficile de pouvoir y amétéoriter. Mais enfin, pour décoller, généralement, c'est un peu plus facile. Hein, et bien, si tout se passe bien, à la prochaine semaine hebdomadaire. Et moi, je vous conseille de boycotter l'avocat. Et sans jeu de mots.
Voyager ensemble. like they calling. When the odds stack up, back up, bad luck might change, cause the dice ain't falling. And the hungry get fed from this paper. I take shares, bitch, to break bread. You the main head, going whistling their ears. We live like it's a gift, and if you're with us, to say yeah. One life. Lemons in your Kool-Aid, concentrated in the ghettos you made. Oh, living my life like a good change on this day. One life to live. So I started my own family, got a home for the kids, for my job at the factory. Made cool with my low salary. It's so hard to believe we got out these top shit streets, cause we act great, strong, real hard. Make songs, thank God it's like they call it. When the odds stack up, back up, bad luck might change, cause the dice ain't falling. And we hustle and never know nightfall, like outlaws working them light jobs and light bulbs. Ideas and fight goals and even life scores, cause down here living is like war.
One life to live, one life to give, it just one life. One life to live, one life to give, one life to give, it just one life. One life to live, one life to give, one life to give, it just one life. One life to live, one life to give, one life to give, it just one life.
Life's a casino floor, the dealer's jaw, the dice put a dream on hold. The free or four be rise with the chips made for you can't bluff or flush, homie, this ain't sport, you will watch. Cause the eye in the sky is gone, double the bet. One life, never forget, that might be the last sunshine you ever see set. Texas holding in the full house, paid rent.
One life to live, one life to quit, one life to give, it just one life. One life to live, one life to quit, one life to give, it just one life. One life to live, one life to quit, one life to give, it just one life. One life to live, one life to quit, one life to give, it just one life.
We the lemons in your Kool-Aid, concentrated in the ghettos you made. Oh, living my life like a good change on this day. One life to live, one life to live, one life to live.
À l'instant, c'était un groupe d'Afrique du Sud, To Me and the View Volume, qui nous interprétait Limpopo, dont il a été question à l'instant. On n'a qu'une vie à vivre, et bien pourquoi pas travailler dans l'avocat pour les véganes. Et la chanson d'avant, c'est J'ai un estomac magnifique. Le texte était de Jacques Prévert, et interprété par Natacha Bessery. Eh bien, nous continuons. Vous êtes toujours sur l'émission Les Petits Tas dans le Mou et nous fêtons la Sainte Flora. Et on vous engage, bien sûr, toujours jusqu'à ce soir, à chercher le petit objet qui peut faire vaciller un continent. Car une aile d'un oiseau, quelque part, sur le météorite, peut peut-être faire bouger un papillon à l'autre côté. Nous abordons ainsi sur ces bonnes paroles la rubrique Gamma. L'enjeu d'un bouton de pyjama. C'est pas facile de penser en profondeur. Ceux qui pensent en profondeur ont des propos superficiels, des idées toutes faites. Oh merde, j'ai pas boutonné mon pyjama quand je me suis levé tout à l'heure. Comment discuter avec un pyjama ouvert, dépareillé, dépenaillé? Voilà. Avant toute chose, pensez à une méthodologie. Il y a des effets et il y a des causes. Le contraire n'est pas valable. Il n'y aurait pas d'effet s'il n'y avait pas de cause. Donc, dans la vie, il y a avant tout des actes, du genre boutonner son pantalon de pyjama avant de converser avec quiconque. Ainsi s'établit une première valeur. Cette valeur, je la nomme convenance. Bon, examinons la valeur convenance. Sur elle, nous pouvons fonder notre premier acte de la journée, se boutonner correctement. C'est ainsi que l'on peut décréter que l'homme est un être doué de raison. C'est ainsi que l'homme a pu imaginer un mot tel que « honneur ». L'honneur du matin est de boutonner son pyjama. Mais ce matin, je n'ai pas eu envie de boutonner mon pyjama. C'était un refus radical. Qui est-ce qui serait dérangé par ce pyjama non boutonné? Ce serait l'imbécile de service qui n'a pas remarqué qu'il n'y avait plus de boutons à ce pyjama. Hein? Qui est l'imbécile de service dans ces conditions? Qui est dans l'erreur de jugement? Pas moi, qui affirme que la matière est soumise à l'esprit, dans des cas précis comme celui-ci, un pyjama sans bouton bien malin qui le boutonnera. Bien sûr, l'homme de science dira « Mais il fallait anticiper et coudre des boutons sur ce pantalon de pyjama vétuste ou bien acheter un autre pyjama, au moins le bas. » Je le regarde, cet homme qui se dit de science à un médecin. Il est très laid, c'est une vérité que personne ne me contestera. C'est marrant, un type qui ose sortir sans pommette sur les joues, venir chez moi, et elles sont hypertrophiées, ces pommettes. Il devrait acheter des boutons pour que sa figure fasse l'affaire. Des joues qui débordent sur les oreilles, ce n'est pas esthétique, tout le monde vous le dira. Et puis, à son âge, il porte déjà des lunettes. On dirait que ses yeux ont pris leur quartier sur les tempes, quand ils ne sont pas relégués au fond des orbites. Bon... Passe encore qu'il nous exhibe un début de calvitie et que son système pileux lui interdit de porter la barbe des philosophes. Il y a tout de même ses poils volages dans le cou. Ce n'est pas une façon de se montrer en société. Même sur la pommette, il y a un poil d'oublié. Et sur la glotte, oh, je n'ose même pas y perdre mon regard. Le nez. Mais... À 13h35, vous êtes peut-être en train de déjeuner, chers auditeurs, J'insisterai pas sur le nez. Les oreilles! Oh, malédiction! Ah, les scientifiques sont des excentriques, c'est connu, hein? Un savant, c'est un original, par tradition. Vous connaissez un savant qui ne soit pas un original, vous? Mais, cette remarque, à propos des boutons de mon pyjama, je ne la trouve pas excentrique. C'est une tirade digne de quelqu'un qui se croit maître des lieux, une remarque de chirurgien vestimentaire. J'ai en face de moi un professeur velu, velu jusqu'au bout du nez. Son originalité en vrai, elle vient de ses poils et de ses petites lunettes de savant. Je me demande pourquoi il commence à être chauve, avec ses pilosités qui l'envahissent partout ailleurs. Il n'y a pas de justice. Je sais. La fonction. l'intention d'un maître est de transmettre certaines informations pour éviter à la personne visitée de parcourir à nouveau le chemin chaotique des connaissances humaines depuis la préhistoire. L'homme préhistorique connaissait-il les boutons de pyjama? Un bon enseignant, un bon soignant, dispense son enseignement sans imposer l'information. Là, il me domine, il me dit « Où sont passés vos boutons de pyjama ?» Ah, ma finalité n'est pas la sienne, qu'il arrête de frimer. Nous ne partageons pas la même classe sociale, ok, donc sa finalité n'est pas la mienne, qu'il me laisse tranquille avec mon pyjama. À moins que nous puissions tous aboutir à une même finalité. Alors il faut parler de nos motivations réciproques. Tous ceux qui me font la morale la font passer sous le couvert d'un enseignement. Mais ils répondent à quel programme ? Pour soigner leur évolution dans l'ordre de la hiérarchie. La structure chez moi, il y a longtemps qu'elle n'est plus au programme. Oui, je parle de la structure socio-économique. Je n'ai pas besoin de me boutonner pour cela. Le processus de production, mais la belle affaire. Quoi ? Une formation professionnelle ? Pour porter une cravate en plus de cela sur un pyjama sans bouton ? Ah bien sûr, la plupart du temps, j'ai peur et je m'apitoie sur mon sort. J'ai besoin d'un père, je recherche un père. Quelqu'un qui sait comment il faut être, comment je dois être pour avoir une stature, un statut auprès des autres. Mais l'autre, il s'y prend mal en critiquant mon pyjama. Et il y a une chose à laquelle je ne veux pas me résoudre, c'est la soumission. Je ne suis plus un enfant et même enfant... Je passe. Je suis tout disposé à recevoir des informations, mais je ne voudrais pas qu'on oublie là-dessous mes motivations. Il va bientôt me traiter d'aliéné, l'autre poilu, là. Je le sens gros comme... Il mise sur le fait que j'ai besoin de me sentir sécurisé. Mais son pouvoir n'a aucune raison d'être en ce qui me concerne. Il parle comme ça, avec sa voix posée. « Vous devriez résoudre cette question des boutons de votre pyjama. Bon. » Et quelle en serait la motivation ? Je veux dire la mienne de motivation. Est-ce que vous seriez mon père, par hasard, pour m'asséner des constats pareils ? Vous vous sentez gratifié parce que vous êtes le soignant et moi le patient, l'élève. Vous êtes le pouvoir, là, en face de moi. Mais vous n'avez à mes yeux aucune justification fonctionnelle. Ouais, l'enseignement ne m'a valu que des bosses. Et toute la structure sociale, elle ne sert qu'à créer des bosses qu'on appelle des paradis fiscaux. Monsieur, je suis là devant vous, votre paradis fiscal, avec mon pyjama déboutonné. Votre structure est fermée, non la mienne. En fait, je vais vous le dire tout de go, sortez. J'ai pas besoin de vous.
Thank you.
Je remercie Anthony Braxton, composition numéro 10, de m'avoir accompagné jusqu'à cette ultime rubrique. La rubrique Babayaka, celle que les poissons roches appellent... Ils m'ont mal jugé. Je viens d'une vie intérieure, antérieure, du temps où l'Andalousie était arabe. Je n'ai pas vécu cette période étant un Européen bon teint. Ma mémoire est celle d'une chevelure qui était une comète. Je regarde les étoiles et je leur confesse mes remords. C'était un temps où je n'avais pas de poils aux pattes. Le mot rupture faisait naître en moi un tas de mystères. Je m'imaginais des bateaux sans bastingage. Et puis, je baissais mes yeux vers les cailloux, vers les herbes. J'apprenais à les nommer. Cailloux. Herbe. Quel drôle de mot. Mes coudes étaient recouverts de reprisages, de coutures et de rapiessages. J'usais volontiers de la serpe. En regardant un quartier de lune, je faisais des rapprochements avec mes coudes, mes genoux, tout en couleur. Et puis à l'école, on m'a appris N, l'inconnu de l'équation. Je sus qu'elle était belle, mais me refusais à la trouver, à résoudre l'équation sur la copie. Je la trouvais quand même, plus tard, sur la balançoire, suspendue à l'arbre de la méconnaissance. Cristaux, liquide. Et les jours de test, la larme qui retentissait. La soupe aussi, j'allais l'oublier, la soupe. La soupe avec trop d'eau, aux légumes exotiques, aux noms problématiques. Mais N revenait, l'inconnu. Je restais longtemps sous les yeux de cette soupe, drapée dans sa fumée. Elle m'évoquait déjà les cigares et aussi quelques coins de rue de moi seul connus. Il y avait des œufs qui éclosaient, je me souviens surtout de trois poissons tournant croupe à croupe dans le cresson. Un jour, je me suis muni d'un bon balai en chevelure d'ajon et j'ai escaladé le minaret. Mon but était de repriser les nuages pour qu'ils jettent sur notre terre un théâtre d'ombre. Je brossais soigneusement les profils avec ma tignasse de sorcière et en bas j'observais le résultat. Des pestilences vertes caracolaient avant de s'enfouir dans le sol spongieux. On m'avait bien averti que les grenouilles annonçaient la pluie et que c'était pour cela qu'il fallait se méfier des artistes peintres avec leurs nuages de mauvais augure. Aujourd'hui encore, je vois des gens qui s'agenouillent pour prêter l'oreille au grouillement de la terre. Ils s'appellent les rieurs, les humoristes. Moi, je fronce les sourcils et le bord des nuées. Parce qu'il y a des gens qui ne se relèvent plus, cloués par leurs ménisques. Je les vois verdir et annoncer la pluie. Je souris quand même. J'aime les algues, mes amis. Que voulez-vous ? Comment résister à ces feux follets des rochers ? Ce sont mes danseuses étoiles qui font des pointes sur ma scène primitive. Elles emmaillotent les mollusques. Ma vie se passe sur un perchoir. C'est le camp que j'ai choisi. Ce n'est pas un totem. N'allez pas trop vite dans votre jugement. J'ai toujours été fasciné par ceux qui trouvaient des écrevisses. Je ne les ai saisies que mortes. Les écrevisses, contrairement à ce qu'on croit, supportent mal l'eau salée. J'ai beau badigeonner mon ajonc, elles ne s'y laissent pas prendre. On se moque souvent du poisson dans l'aquarium. Il observe le visage qui s'approche, difforme. Ce visage qui jette la nourriture à heures régulières. Parfois, une éponge imitant un orchestre de violons crissant. C'est jour de nettoyage. Le poisson suit la main qui s'amuse de lui, le mène par le bout du nez. Cette main dessine des angles sur la sphère. Comment fait-elle ? C'est la question du poisson. Il y a une frontière transparente, mais elle se rapproche en s'éloignant. C'est épatant pour le poisson, dont tout le monde se moque. Pas loin, dans l'autre bocal, il y a une grenouille qui considère les quatre doigts de sa patte en éventail contre la vitre. Cette grenouille jaunit d'être seule. Elle ne va pas se vernir les ongles. Si elle pouvait rire, même ce rire serait jaune. Juste un partenaire, ce n'est pas la mer à boire. Pour jouer à s'aimer, pour propulser des œufs. Le poisson et sa voisine la grenouille ont remarqué que les sadiques adoraient dispenser de l'ennui. Avant de venir à Radio Canu, j'ai interviewé un mouchoir. Le mouchoir, il m'a dit « Oh, mon vieux, de nos jours, tous les liquides sont canalisés. » J'ai retourné mon sablier, qui sert pour mes œufs.
« C'est la remise à niveau, » a-t-il susurré. « Jamais la coupe n'est pleine, on retourne l'affaire et allons-y, recyclage à gogo. »
Alors, mais... Dois-je le dire, j'ai consulté mon casier judiciaire. C'était écrit « au cas où ». C'était écrit « au cas où ». Dans la marge d'erreur. Je suis arrivé en retard pour l'émission aujourd'hui car il a fallu que je m'excuse sur mon casier. La météo n'est jamais très exacte. J'ai un enfant qui vient de perdre sa première dent de lait suite à l'ingestion d'une biscotte tartinée de confiture par-dessus une confortable couche de beurre. J'ai abandonné les petits pots et puis, dans le même mouvement, j'ai laissé tomber le bonheur conjugal. La confiture était de groseille, celle que je préfère. Hé, auditeur, auditrice, là. Venez me voir dans les studios.
je me suis déchaussé pour fêter tous ces événements que je viens de vous relater. Et puis, comme le dit Debussy derrière moi, en fêtant la mer, pourquoi ne pas courir ensemble sur une plage de Cordoue où il n'y a pas la mer ? Enfin, ce sera le Guadalquivir. Mais je vous préviens, mais pourquoi ne pas courir ensemble, pieds nus, au bord du Guadalquivir ?
C'était à nouveau Renaud Garcia-Fons qui fêtait donc Flora, hein, là, dans cette musique arabo-andalouse, enfin inspirée des musiques arabo-andalouses. Et Flora qui nous dit que un petit objet peut faire vaciller un continent. Bon, une fille sacrifiée pour sa foi parce qu'elle n'a pas voulu la renier. Mais il y a autre chose, il y a toujours un petit objet qu'on défendra jusqu'au bout des ongles et jusqu'au bout de sa propre vie. Et voilà, c'est ce qu'on vous souhaite jusqu'à ce soir, c'est dire non, ce petit objet, je le garde car il peut faire vaciller énormément de choses. Ce petit objet, ça peut être aussi une petite pensée. Sur ces bonnes considérations de Flora, nous allons vous laisser avec la bande passante, dite bande continue de Radio Canu, la plus belle des radios. Ce jusqu'à 17h où ce sera l'émission intrinsèque, les musicalités gaulo-gauloises cul par-dessus tête. À 18h, ce sera l'émission grain de sable, l'émission d'attaque, où on fera un petit peu le point sur où en sont ce qu'on appelle les mouvements citoyens. Vous remarquerez que même dans nos ondes les plus écoutées, dont Radio Canu, peut-être, on ne parle plus de démocratie participative. C'est très intéressant comme cette mode est passée. En tout cas, ce sera un petit point sur les mouvements citoyens actuels de Lyon et d'ailleurs. Et à 19h, comme chaque jour de la semaine hebdomadaire, le journal de Radio Canu. Et nous, si tout se passe bien, on se retrouve la prochaine semaine hebdomadaire où nous serons le 1er décembre. Mais c'est le début du calendrier de l'Avent. Ah oui, c'est là où on commence à faire le décompte de ce qui reste de cette année. Eh bien, notre thème sera Avent. Mais avant, n'oubliez pas le passé. Une petite chose que je voulais rajouter comme ça, c'est que demain vendredi, à 20h, place de la Comédie, il y a un petit rassemblement pour un peu mobiliser les gens autour des violences faites aux femmes de notre continent. Et d'ailleurs, c'est à 20h, place de la Comédie, vendredi, demain.
Et la pluie qui tombe la nuit dans ton lit, et le crachin qui te réveille au petit matin. Nuit comme jour, c'est l'eau qui t'entoure, mon amour. Fallait danser, la Java c'est du passé composé. La Java c'est fait pour ça, elle vous guette au coin d'un bois. La Java fait les 100 pas sans passer. Oh patron, remettez-nous ça, la Java me reste là. Plus je vais, plus va la Java. Elle vous guette au coin d'un bois. La Java fait les 100 pas sans passer. Oh patron, remettez-nous ça. La Java me reste là. Plus je vais, plus va la Java. Java, j'avais reconnu un petit air un peu fendu. La Java va pas à pas, elle est là. Pas perdu, pas reconnu, pathétique de la rue. La Java fait la Java dans mes bras. Pas perdu, pas reconnu, pathétique de la rue. À mon cou, elle s'est pendue. Thank you. Fais-moi valser la tête, fais-moi tanguer, fais-moi la fête, fais-moi rêver, y a le temps qui guette, fais-moi tourner, je veux plus compter, ni le temps passé, ni l'avenir, rien qu'un tango pour me souvenir, je veux rien dans le dos, rien d'autre sur la peau, je veux des lampions qui pètent les plombs, je veux des flonflons qui tournent pas rond, je voudrais que ça pète au son de l'accordéon, alors fais-moi chaver, fais-moi tanguer, fais-moi valser, fais-moi tourner. Je veux des lampions qui pètent les plombs, je veux des plombs qui tournent par où, je veux que ça pète, je veux que ça pète, je veux que ça pète, je veux que ça pète.